pas que ça soit trop long et trop lourd.
Alors, elle leur apparaît avec bienveillance par les chemins. Elle va au-devant de toutes leurs pensées. Et en effet, il paraît que justement, les damnés reconnaissent eux-mêmes toutes les préventions de Dieu pour qu'ils ne se damnent pas. Et bon, et voilà. Dieu les a appelés. Hein, c'est Jésus qui dit à Judas, mon ami, le fils de la perdition. Alors, bon, on raconte plein de choses. Peut-être que Judas s'est sauvé, tout ça, in extremis. En tout cas, Jésus, jusqu'au bout, lui donne des grâces pour qu'il se sauve. Hein, mon ami. Car son commencement le plus sûr, c'est le désir de s'en instruire. Vouloir s'en instruire, c'est l'aimer, déjà. L'aimer, c'est garder ses lois. Ah, donc, il ne suffit pas de croire, il faut les œuvres. Obéir à ses lois, c'est s'assurer l'immortalité. L'immortalité spirituelle. Et l'immortalité donne place auprès de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse conduit à la royauté. Régner avec Dieu. Si donc, trône et sceptre vous plaisent, ô souverain des peuples, honorez la sagesse afin de régner éternellement. Parce que vous aurez eu beau régner même 40 ans sur terre, si c'est pour ensuite être tout seul en enfer, car tous les damnés sont seuls. Aucune solidarité entre démons. Entre damnés. Tous sont seuls. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, ils sont tous seuls.
Il y a la promiscuité.
Même pas. Ils sont dans la prison de leur esprit. Oh, ils doivent avoir un petit spectacle, hein, de voir les autres hurler, de voir les démons se déformer. Satan, comment dire, hurler, enfin ça, oui, ça doit être joli, mais tout ça dans un magma terrestre incandescent. Oui, non, c'est un. Mais le film est un peu long. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est chaud, je brûle, j'en peux plus. Oui, très bien. Oui. Et vous oui, voilà. Voilà, voilà, voilà. On peut discuter d'autre chose, non? Le temps, oui, ben, il fait très chaud. Ah oui, 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 c'est sûr. La température aujourd'hui, ben, c'est la même qu'hier. Bon. Bien, 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 bien. Eh ben, j'aurais pas dû me damner. Ben oui. Mais alors, voudrais-tu aller au ciel? Non! Ah ben, oui.
Vous croyez qu'il dit j'aurais pas dû me damner? C'est déjà du regret, ça?
Oui, mais c'est un regret froid. C'est le regret des cathédrales, vous savez, vous avez des gens qui vont en enfer et qui regardent en arrière, en disant, oh, ben, oui, mais justement.
Le riche et Lazare, ils regrettent. Hein, le riche.
Oui, non, mais ils regrettent de souffrir. Ils ne regrettent pas le ciel. Ils regrettent de souffrir.
Il a soif.
Il a soif. Il ne dit pas, oh, j'aurais dû aimer. Il dit, ah, j'ai mal. Il dit, oh, j'aurais dû être plus gentil avec Lazare. Non, on n'en parle même pas. Mm-hmm. Qu'il crève. Et justement, il est mort, mais les anges l'ont emmené auprès de Dieu. Donc, lui est un peu plus heureux que vous en ce moment, parce que vous avez un peu chaud et puis vous avez un peu soif.
Mais il ne demande pas de demander à prévenir ses frères. N'est-ce
pas pour oui, mais pas pour qu'il se sauve, oui. Mais pour qu'il ne brûle pas comme lui. Oui. C'est vraiment, comment dire. Terre à terre, hein, comment dire, c'est carbonisant, hein, c'est, comme raisonnement.
Mais il pense pour ses frères, quand même.
Oh oui, oui, oui. Oui, mais c'est, si vous voulez, oui, on peut lui concéder ça. Il doit être dans le premier cercle de l'enfer, comme disaient les théologiens de la Renaissance. Il y avait le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle.
Ah oui.
Les païens qui savait bien quand même que c'était pas gentil d'exploser la tête du bébé, comment dire, contre l'arbre, qui se doutait que c'était pas une coutume fantastique dans leur culture, et qui était pas très méchant par ailleurs. Vous voyez, c'est le médecin, clinicien qui dit « Oh, ces pauvres femmes qui me demandent de les aborter, ben, faut bien le faire, voilà. » voilà, ils vont en enfer, d'un petit enfer, gentil. Parce qu'ils étaient gentils, ils allaient à la messe de temps en temps, à Noël, à Pâques. Et, mais ils disaient, oh, l'église est trop sévère, on devrait...
Ils étaient charitables.
Elle devrait permettre, on devrait permettre l'avortement dans tel ou tel cas. Et vous savez que vous aviez un grand chirurgien qui était, qu'on appelait quand même le boucher. Parce que... Il était protestant évangélique vague, hein, puisqu'il allait au temple chaque dimanche. Et il faisait des avortements de complaisance pour les femmes dans la, dans la détresse jusqu'à ce que, jusqu'à 6 mois, 8 mois.
Donc, ça date de quand ça?
De plusieurs années, 7-10 ans. Mais on l'appelle boucher parce qu'il sortait des enfants un peu gros. Hein. Voilà. Et donc, un jour qu'il lisait au temple la parole de Dieu, et ben vous avez un dingue, heureusement, ni catholique ni quoi que ce soit, qui avait lu sur internet la vie du bonhomme, qui disait « Oh, ça doit être un salaud ». Il est entré dans le temple, il a sorti son revolver et il l'a flingué devant tout le monde. Et lui, il est mort dans le temple. Triste mort pour un assassin. Mais, voilà. Mais voyez-vous, quel était son raisonnement? Puisqu'il était croyant, et que c'était le dieu des limbes, le dieu des petits-enfants qui s'amusent avec Jésus. Enfin, voilà. Enfin, c'est, pour lui, il avait transformé sa foi en se disant non, et ben c'est qu'on meure d'une maladie, d'un cancer, ou qu'on meure. Dans, comment dire, d'un avortement, c'est la même chose, quoi. Au moins, je soulage cette femme qui aurait pu avoir des très grosses difficultés à l'élever, tout ça. C'est un acte charitable, en fait. Bon. Ah ! L'exégète, quand même, dit « Salomon va décrire la sagesse ». Petite concession à la tradition qui dit que c'est Salomon qui écrit le livre. Ce qu'est la sagesse et comment elle prit naissance, je vais le publier. Je ne vous en cacherai pas les secrets. J'en suivrai les traces depuis l'origine. Je mettrai sa connaissance en pleine lumière. Je ne m'écarterai pas de la vérité. Oh, je ne ferai pas route non plus avec l'envie desséchante. Je ne ferai pas route non plus avec l'envie desséchante. La pointe semble dirigée contre les religions à mystère, qui ne livraient leurs secrets qu'à quelques initiés, et aussi contre les philosophes et sophistes qui, pour ne pas déprécier leur savoir, ne le dispensaient qu'à des cercles restreints. Oh, je ne ferai pas route non plus avec l'envie desséchante. Vous voyez, on est là... On va vous le dire, mais on ne vous le dit pas, quoi. Vous tirez la langue et vous... Celle-ci n'a rien de commun avec la sagesse, la route desséchante. La multitude des sages est le salut du monde. Donc il faut rendre le plus grand nombre de personnes sages. Et le bûcheron qui croit en Jésus-Christ, il est sage. Un roi sensé fait la prospérité de son peuple. Laissez-vous donc instruire par mes paroles, vous y trouverez profit. Donc on va envoyer ça à M. Hollande dès ce soir. Salomon n'était qu'un homme, donc celui qui écrit. Hein. Je ne suis moi aussi qu'un homme mortel, semblable à tous les autres, l'écrivain sacré. Hein. L'écrivain sacré dit « Un descendant du premier être formé de la terre. » Ah. Référence adamique. J'ai été modelé en chair dans le sein de ma mère, où pendant 10 mois, grosso modo. Ah, mais vous voyez, hein, c'est pas infaillible et tout, hein, c'est pas Dieu qui l'a dicté et tout. Bah, pour la science de l'époque, les enfants pouvaient naître parfois 10 jours plus tard, tout ça. Enfin, voilà. Or, où pendant 10 mois, dans son sang, j'ai pris consistance. Grâce à la semence virile et au plaisir, compagnon du sommeil. À ma naissance, j'ai moi aussi respiré l'air commun, Ça fait crier les nouveau-nés. Parce que toutes les alvéoles de pulmonaires se développent. Et ça fait un mal de chien, paraît-il. Bon.
De quoi vous parlez?
Mais quand le nouveau-né respire pour la première fois, tous ses poumons étaient collés.
Oh,
et ça, c'est comme un ballon totalement plat. Et qui est un peu usé, un peu vieux.
Oui,
et ça fait... Bon. À ma naissance, j'ai moi aussi respiré l'air commun. Je suis tombé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement. Et des pleurs comme pour tous furent mon premier cri. J'ai été levé dans les langes et parmi les soucis. Aucun roi ne connut d'autre début d'existence. Les bébés royaux ne sont pas là tout propres dès le premier instant. Voilà. À donner leurs ordres à leurs laquais. Il n'y a pour tous qu'une façon d'entrer dans la vie, comme d'en sortir. Ça, c'est pour la GPA, oui. Les couples homosexuels. Vous aurez beau essayer de faire plein de choses, et grâce à Dieu, hein, et c'est une promesse apparemment forte, j'espère bien, eh bien, comment dire, mon Dieu, l'être humain est tellement compliqué. Vous vous rendez compte, quand on prend notre propre tissu, parfois la greffe n'est pas évidente. Et une peau qu'on prend ailleurs pour mettre ici, tout ça. Les greffes humaines, même si ce sont des frères et sœurs, tout ça. Enfin, eh bien, de pouvoir mettre un embryon humain dans l'utérus d'une vache, ben, ça ne marche pas. Parce qu'il y a tellement de liens entre le bébé et la mère qu'il y a même des hormones particulières lorsque c'est un garçon ou une fille. Il y a des réactions particulières de la mère. Le lait est différent suivant que c'est un garçon ou une fille. Ça, c'est une découverte récente. Et découverte.
Oui.
Le lait maternel est différent.
Donc ce sont les femmes qui sont sexistes, pas...
Non, mais parce que le garçon a déjà une masse, des besoins en protéines différents de la fille. Enfin,
non, je sais, mais c'est mystérieux. Pour les embêter.
Et le squelette est différent. Enfin voilà. Bon.
S'il y a des jumeaux alors, garçon et fille.
Ben c'est des faux jumeaux.
Oui.
Ils ont chacun leur tube. Ils n'ont pas le même cordon ombilical. Ils ont deux cordons ombilicaux différents. Ah oui, la pauvre maman, oui, je sais pas, ça doit être du moitié-moitié. Mais l'équilibre hormonal est invraisemblable hein, dans l'être humain. Et dès que ça va pas, ça va pas. Hein. Alors, qu'est-ce que dit Salomon? C'est pourquoi j'ai prié. J'ai demandé à Dieu. Et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié. Et l'esprit de sagesse m'est venu. Donc si c'est pas Salomon, c'est bien imité en tout cas. Au sceptre et au trône, je l'ai préféré. J'ai tenu pour rien la richesse auprès d'elle. Je ne lui ai pas comparé la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde mis en sa présence n'est qu'un peu de sable. À côté d'elle, l'argent compte pour de la boue. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que prêtre diocésain, avec possibilité d'avoir de l'argent et tout ça, je suis toujours complexé ou plutôt respectueux d'un moine. Parce qu'il est plus sage que moi sur ce plan-là. C'est tout. C'est indéniable. La vie la plus parfaite, c'est le vœu de pauvreté qu'on fait. On pourra toujours avoir des considérations mystiques. Non. Le moine est dans un meilleur état et vous avez des prêtres diocésains qui ont qui sont très providentialistes et qui ont très peu d'argent, très peu de livres, très peu de choses à eux. Moi, j'ai un déménagement de dingue. Hein, plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé, je l'ai préféré à la lumière. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Mais voilà. Mais vous voyez, ce sont des grandes, grandes réponses. Hein. Mais alors, les évangéliques? Oh Dieu, je veux être beau. Ah Dieu, je veux être riche. Dieu, là, ma cache. Comment
là, c'est vraiment que des questions d'argent. Hein.
Ben oui, mais plus que santé et beauté, je l'ai aimé. Mm-hmm. Ah ben ça, c'est les pasteurs, ils disent pas ça. Hein. Pasteur évangélique dans les méga church. Vous verrez, vous serez riche et surtout donnez-moi 10% de vos revenus.
Oui, c'est ça.
Je l'ai préféré à la lumière. Dans le grand silence, vous avez un moine qui est aveugle et qui a, enfin, il parle avec une telle joie intérieure que c'est impressionnant. Il dit, oui. Ah ben je suis aveugle, vous savez. C'est pas grave. Oui. c'est incroyable. Mais bon, on le sait, mais de voir un moine aveugle dire parler comme ça, c'est beau, quoi. Enfin, voilà, ça confirme. Ça, voilà. Car son éclat ne connaît point de repos. Mais avec elle me sont venus tous les biens, et par ses mains d'innombrables richesses. Alors ce verset 11 du chapitre 7 peut être pris de deux manières. Toujours en restant spirituel, des biens, des événements heureux, des richesses spirituelles. Mais là, Salomon, il va dire, parce que je maîtrisais parfaitement l'union à Dieu, ben Dieu m'a laissé être riche. C'est comme Saint Vincent de Paul, qui, comment dire, tout en étant, ayant une vie assez pauvre, a eu beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc a géré beaucoup d'argent. Il avait plein de dons, il avait les poches pleines d'or et tout ça, de pièces d'or. Et donc, c'est quelqu'un qui a été riche. Saint Vincent de Paul a été riche au sens propre parce qu'il a décidé de la destination des richesses. Donc, il était riche, quoi. C'est lui qui était propriétaire momentané peut-être de ses richesses, mais enfin, il les avait, hein, qu'on le veuille ou non. Ensuite, il a fait des hôpitaux, il les donnait aux pauvres et tout ça, tout ce que vous voulez. Mais comme un riche séculier, marié avec des enfants, qui utilise son argent pour sa femme, pour ses enfants, pour des pauvres, tout ça. Il décide de l'argent. C'est ça un riche. C'est celui qui a de l'argent et qui décide de sa destination. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'argent et qui décide rien de ce qu'il n'a pas.
Il n'est pas plus malheureux pour ça.
Non. Mais enfin, voilà. Mais bon, mais par contre, quand on atteint la misère, ah, ça crie vengeance devant le trône de Dieu, et voilà. Et par ses mains, d'innombrables richesses. Et donc, si on le prend dans le sens plus propre, ah oui, Salomon est devenu très très riche. Hein, on disait que l'or était aussi fréquent que les pierres, et que le sable, et l'argent que les pierres. Hein, De tous ces biens, je me suis réjoui, puisque c'est la sagesse qui les amène. J'ignorais pourtant qu'elle en fut la mère. Ce que j'ai appris sans arrière-pensée, je le communique sans regret, et je n'entends pas cacher ses richesses. Elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Alors là, on passe plutôt aux richesses spirituelles. Ceux qui l'acquièrent s'attirent l'amitié de Dieu et se recommandent à lui par les bienfaits de ses leçons. Que Dieu m'accorde d'en parler à son gré et d'émettre des pensées dignes de ses dons, puisqu'il est lui-même le guide de la sagesse et qu'il dirige les sages. Nous sommes dans sa main, nous et nos discours, et toute notre prudence et toute notre technique. C'est lui qui m'a donné la science vraie du réel, qui m'a fait connaître la structure du monde et les propriétés des éléments. Parce que Salomon avait une telle sagesse que Dieu lui avait donnée, puisqu'il n'avait pas demandé la puissance de gagner la guerre, il disait « je voudrais être sage ». Voilà. Eh bien, il a été, botaniste, il a étudié la nature, il a étudié les lois de la nature, il a été astronome, il a tout étudié du coup, Salomon.
Tout le reste lui fut donné par ce quoi.
Oui. Mais sur quoi ? Et les rois mages, c'était des hommes comme ça, mm-hmm. et qui ont scruté les Écritures, et Dieu leur a donné la lumière de croire aux Écritures des Hébreux. Eux qui étaient des princes de petites villes, hein, des rois de petites villes, qui consacraient leur loisir à l'étude et aux sciences et aux sciences naturelles, qui étaient des mages. Ouais. Qui m'a fait connaître la structure du monde. Et c'est pour ça que les vrais professeurs en médecine, les vrais Les ingénieurs sont croyants. Pasteur était croyant.
En père aussi.
Comment ?
En père aussi. En père.
En père, oui. De toute façon, les vrais, vrais intelligents sont croyants. Einstein était croyant. Hein. On oublie que Einstein croyait en Dieu. C'est amusant. Et au risque de vous choquer, Darwin dit que Dieu est derrière... il n'est pas évolutionniste du hasard, hein, Darwin. Il dit que c'est Dieu qui est derrière l'évolution.
Ah oui.
Et oui, intéressant. Et dans les traductions de Darwin de l'anglais au français, on supprime la mention de Dieu. C'est à creuser, ça.
Donc c'est pas une traduction, c'est une interprétation à ce moment-là. Si on enlève de choses dans la texte.
Ah non, c'est une trahison.
Pardon ?
C'est une trahison. Ah non, mais là c'est une pure trahison. S'il y a Dieu dans la phrase, on doit traduire par Dieu. La structure du monde, les propriétés des éléments, le début, la fin et le milieu des temps. L'alternance des solstices et la succession des saisons. Le déroulement de l'année et les positions des astres. Le naturel des animaux et les instincts des bêtes sauvages. Le pouvoir des esprits et les pensées des hommes. Les variétés des plantes et les vertus des racines. Tout ce qui est caché, tout ce qui se voit, je l'ai appris. Car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a instruit la sagesse. Quelle heure est-il ? Minuit.
9h15 ? 10h15.
Ah, 10h15, donc c'est un peu tard. Donc je vais terminer parce que l'abbé Wojtek va se dire mais c'est quoi ce. Il y a en elle, en effet, un esprit intelligent, sain, unique, multiple, subtil, agile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, tranchant, incoercible, bienfaisant, ami des humains, constant, ferme, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Elle traverse et pénètre tout grâce à sa pureté. Elle est un souffle de la puissance divine, une effusion toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne pénètre en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité divine, une image de son excellence. Bien qu'unique, elle peut tout. S'en sortir d'elle-même, elle renouvelle toute chose. Elle se répand au long des âges dans les âmes saintes et en fait des amis de Dieu et des prophètes. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est en effet plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte. Cette dernière fait place à la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne saurait prévaloir. Ça, c'est une hymne extraordinaire. À qui ? Au Verbe. À qui ? À Jésus. Vous voyez ? Et donc, Jésus.
C'est ça que je retiens, moi.
Mais Jésus est Dieu. Il est le souffle de la puissance divine. Le Verbe est l'effusion toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Rien ne souille et ne pénètre en elle. Il est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'acte divin, une image de son excellence. Mais il est Dieu. Le Verbe est Dieu. Le livre de la sagesse, d'après les Septante, il date au moins de 200 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, on a tous les éléments, aussi bien les rabbins que les imams, parce qu'ils reconnaissent quand même le livre de la sagesse. Alors, certains rabbins, non. Ils disent que le livre de la sagesse, c'est trop... comment dire, c'est trop justement les Septante...
L'Ancien Testament ?
Les rabbins, je ne crois pas qu'ils reconnaissent le livre de la sagesse comme inspiré. Mais on comprend, vu... Oui. Et alors, l'auteur dit, en présence d'une composition aussi ferme, on s'étonne que depuis le XVIIIe siècle, de nombreux critiques se soient appliqués à y découvrir plusieurs mains. Les diverses raisons alléguées, différence de rythme, de style, de pensée, manque de force. Leur accumulation même ne saurait fournir une preuve. Dans les trois parties du livre, d'ailleurs habilement liées entre elles, ce sont mêmes mots cruciaux, même richesse d'expression, même procédé de développement, même absence de nom propre dans les passages qui sembleraient en comporter, même goût pour l'antithèse, même aptitude à la description, même sens dramatique, même flamme oratoire, même perspective dans la destinée humaine et sur l'histoire. C'est bien le même auteur qui a tout écrit.
Ah oui.
Eh ben dis donc, qui fait ce commentaire? Le chanoine Hostie. Oui. Professeur à l'Institut catholique de Paris en 1950, édition du Cerf. Les derniers feux de l'exégèse classique, qui dit tous ces verbiages sur la différence de style, parce que c'est comme si on disait ah ben il utilise pas que le verbe être. Oui, mais non. Mm-hmm. Chapitre 8.
Messieurs,